Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va continuer toujours sur le disciple accompli. Et comme nous l'avons vu déjà au travers des trois messages précédents, l'objectif et le désir de Dieu, c'est que nous devenions semblables à Jésus. Je vous rappelle que Luc 6, 40 dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais que tout disciple accompli sera comme le maître. Nous avons vu également dans la première épître de Jean que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et également dans Éphésiens 4, lorsqu'il est parlé des ministères, il nous est dit qu'ils ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ. Donc nous sommes appelés à un tel niveau. Et ça, ça concerne chaque enfant de Dieu, chaque chrétien né de nouveau, ce qui se dit disciple du Seigneur Jésus. Dans un premier message, nous avons vu qu'il y avait une différence entre être un croyant et être un disciple. Nous avons vu que Jésus cherchait beaucoup plus que des adhérents ou des gens qui croyaient, mais il cherchait des disciples. Et nous avons vu qu'être un disciple demande une certaine consécration, hein, que nous avons besoin de nous discipliner, que nous avons besoin de faire un choix et de nous engager. Et dans le deuxième message, nous avons vu qu'il fallait payer un prix, qu'il y avait un prix à payer, qu'on n'était pas seulement là comme ça, mais qu'il fallait accepter de mettre Jésus à la première place, de faire des priorités de notre maître, nos priorités. Et nous avons vu aussi que la priorité par excellence, c'est le royaume de Dieu. Et ensuite, dans un troisième message, nous avons vu que nous devions fonctionner selon le modèle, que nous avons un modèle qui nous est donné, que la Bible nous montre que à plusieurs reprises dans l'histoire du monde, si j'ose dire, dans l'histoire du peuple de Dieu, il y avait des modèles qui étaient donnés pour quelque chose, et lorsque l'on respectait le modèle, Dieu venait manifester sa gloire et sa puissance. Nous avons vu que Jésus nous donne le modèle, l'exemple à suivre, et qu'en fait Jésus lui-même ne faisait pas ce qu'il voulait, mais il suivait le modèle de son Père. Et j'aimerais à ce sujet vous donner encore deux exemples du Nouveau Testament, où l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, et puis aux Éphésiens, et il va également leur donner une indication qui vient rejoindre cette notion de modèle ou de standard que nous avons. Donc 1 Corinthiens 11, c'est le premier passage, 1 Corinthiens 11 et au verset 1. Paul dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc là encore, ça vient appuyer le fait que le disciple de Jésus ou le croyant né de nouveau doit être imitateur, mais non de la personne qui l'a amené à Christ, comme on pourrait penser qu'il faut imiter Paul, mais Paul dit « imitez-moi de la même manière que j'imite Christ ». Donc, sous-entendu, imiter Christ comme je le fais moi-même. Donc là, il demande aux Corinthiens d'imiter Christ, et il le dira plusieurs fois d'ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens. Et puis dans Éphésiens chapitre 5, et au verset 1er, où Paul dit « devenez donc les imitateurs de Dieu ». Comme des enfants bien-aimés. Donc là encore, il est dit très clairement que nous sommes appelés ou que nous devons imiter Dieu. Et je vous rappelle que Jésus a enseigné qu'il faisait ce qu'il voyait faire au Père et que ce qu'il disait, c'est ce que le Père avait dit. Donc on a vraiment ce modèle, cet exemple que nous devons faire les choses que Dieu fait, que nous devons dire ce que Dieu dit. Et en parlant de dire ce que Dieu dit, vient se poser la question de quel message nous annonçons, de quel message nous sommes porteurs. Et nous allons regarder ensemble aujourd'hui, en particulier au fait que nous sommes envoyés. Et en effet, Jésus dit dans Jean 17, où Jésus fait cette prière qu'on connaît bien, où il prie en fait pour ses disciples, il prie pour les croyants. Et Jean 17, au verset 18, Jésus dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc là aussi, nous sommes à l'image de Jésus. C'est-à-dire que le Père a envoyé Jésus dans le monde pour être porteur d'un message, pour accomplir une mission. Et de la même façon, Jésus nous envoie, nous, ses disciples, dans le monde. Et plus loin dans Jean, toujours au chapitre 20, lorsque Jésus va apparaître aux disciples, il va leur confirmer cet appel. Jean 20, et au verset 21, nous lisons, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc Jésus envoie ses disciples. Mais il ne les envoie pas seulement comme ça en disant « Bon, bah allez, maintenant, je vous laisse, faites vos affaires. » Non, il les envoie avec un ordre de mission. Et ce sont deux passages très bien connus que je vais lire maintenant, mais je crois que c'est nécessaire de les rappeler, hein, où Jésus, lorsqu'il part, va laisser un ordre de mission à ses disciples, qui en fait est ce qu'on appelle souvent le grand mandat, ce qui est l'appel de Jésus, l'appel de Dieu pour ses disciples, pour son Église. Donc, on va le prendre dans Matthieu 28. Au verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus nous envoie, en tant que ses disciples, faire de toutes les nations des disciples. Et nous avons observé précédemment dans les messages, qu'est-ce que c'est un disciple ? Et aujourd'hui, peut-être qu'on a beaucoup prêché l'évangile, la bonne nouvelle, on a prêché Jésus-Christ, on a prêché le salut, on a prêché la nouvelle naissance, mais est-ce qu'on a fait des disciples ? Et Jésus nous envoie faire des disciples. Donc, une fois que nous sommes nous-mêmes devenus un disciple de Jésus, il s'agit maintenant d'aller et de faire d'autres disciples de Jésus, en les baptisant, comme il est écrit, et en leur enseignant à observer tout ce qu'il nous a prescrit. C'est-à-dire qu'on va retransmettre l'enseignement de notre maître. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le deuxième passage qui est parallèle à ça, c'est à la fin de l'évangile de Marc. Marc 16, on va prendre au verset 15. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc, on voit ici ce même ordre où il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Mais la question peut se poser, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est quoi ? Hein, le mot « bonne nouvelle », ben, c'est une bonne nouvelle. Ou le mot évangile, si vous voulez, ça signifie seulement bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? On peut pas seulement aller vers les gens et dire « j'ai une bonne nouvelle pour toi ». La personne va dire « mais c'est quoi la bonne nouvelle ?» Alors oui, la bonne nouvelle, c'est le salut, c'est la nouvelle naissance, c'est la guérison, c'est la prospérité, c'est la grâce de Dieu, c'est la réussite, c'est le succès. D'accord, mais en essence, c'est quoi l'évangile ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Eh bien, Jésus nous donne une réponse dans Matthieu 24, où il précise quel message, quelle est la consistance du message qui devrait être prêché partout ? Dans Matthieu 24, au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Là, il nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume. » Donc, ce que Jésus a annoncé, et si vous lisez les évangiles, je l'ai d'ailleurs déjà mentionné, Jésus ne parle pas que du salut. Jésus ne parle pas de la croix. Jésus ne parle pas que de la repentance. Jésus parle du royaume. Et le message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous avons tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous pouvons rechercher. Mais le centre et le point le plus important du message de Jésus, ce autour de quoi son message s'articulait, c'est le royaume de Dieu. Donc, de la même façon que lui, Jésus, a été envoyé dans ce monde, hein, comme représentant de Dieu, bien évidemment, et porteur du message du royaume de Dieu, De la même façon, il nous dit « Je vous envoie ». Et quand il nous a envoyés, eh bien, son attente et son désir, c'est que nous accomplissions la mission dont il nous a investis. Et cette mission dont il nous investit, c'est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Prêcher seulement le salut, prêcher seulement la guérison, prêcher seulement la prospérité. Comme je l'ai déjà dit, ce sont des choses qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont bibliques, mais elles viennent s'inscrire dans un ensemble. Et l'ensemble, c'est le royaume de Dieu. Et nous devons absolument nous attacher au message de Jésus et à ce que Dieu désire que nous annoncions dans ce monde. Et vous savez, ce que le monde désire, ce que le monde recherche, c'est encore une fois pas une religion, pas un message abstrait ou quoi. Le monde recherche le royaume de Dieu. Même si peut-être ils n'en sont pas conscients, mais ils cherchent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le royaume de Dieu. Parce que dans ce royaume, il y a tout ce que l'homme peut désirer. Et dans ce royaume, nous reprenons notre place telle que Dieu l'a désignée depuis le commencement pour l'homme. Et ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'homme, il a voulu que l'homme prenne autorité, que l'homme domine sur la terre. Et on peut regarder ça dans la Genèse. Dans la Genèse, on a exactement l'objectif, le dessein pour lequel Dieu a créé l'homme. Et quel était son but pour l'homme? D'accord? Genèse, au chapitre 1er et au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc on voit ici que Dieu a désiré que l'homme puisse régner ou dominer sur la terre. C'est le but de Dieu. Et que l'homme ait une place d'autorité, que l'homme puisse influencer sa vie et son environnement. Et ça, c'est ce que les hommes désirent, bien-aimés. C'est ce qu'ils recherchent. Et en dehors du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas retrouver cette position d'autorité. Parce que cette position d'autorité a été perdue par le péché, par la chute d'Adam et Ève. Et l'homme, en fait, a délégué son autorité au diable. L'homme a délégué cette autorité à l'ennemi, de par le péché. Et en désobéissant à Dieu, eh bien, l'homme s'est destitué de l'autorité et a donné au diable le pas sur lui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme subit beaucoup de choses sur la terre, l'homme subit des situations, et l'homme est dans une certaine ignorance, en ne sachant pas que s'il revient vers Dieu et s'il se tourne vers le royaume de Dieu, il peut être restauré dans sa position d'autorité, dans sa position de règne, et manifester la puissance de Dieu et le règne de Dieu sur la terre. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, son objectif et sa mission, c'était de nous réconcilier avec Dieu et de nous restaurer dans la position dans laquelle nous étions auparavant. Et je vous invite à regarder avec moi dans Matthieu 6, où Jésus va enseigner ses disciples sur la prière. Et il va leur dire notamment, au verset 10, de prier, « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, lorsque Jésus enseigne ses disciples à prier ça, c'est parce que le règne de Dieu doit s'établir et sa volonté doit se faire sur la terre comme au ciel. Et nous sommes appelés à être ceux qui vont amener les choses du ciel à se manifester sur la terre. Nous avons la victoire, bien-aimés. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans 1 Jean 4, 5. Et puisque Jésus est notre modèle, Jésus dira dans Jean 16, 33, Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus lui-même a vaincu le monde et nous sommes appelés par notre foi à triompher sur ce monde. Non pas sur les personnes, mais nous sommes appelés à avoir autorité, à vaincre le monde, à vaincre les circonstances négatives, à vaincre les choses qui viennent nous nuire pour vivre une vie abondante, une vie faite de joie, de paix, de succès, de réussite, d'impact, une vie significative, une vie de puissance, une vie qui reflète le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à ça, bien-aimés. Et c'est ce que Jésus est venu rétablir en payant de sa propre vie pour que nous puissions être justifiés et avoir un nouveau accès à tous les bénéfices du royaume de Dieu. Et parmi cela, eh bien, nous devons pouvoir prendre autorité. Et ça, c'est ce que le monde recherche. Vous savez, si vous rencontrez des gens, vous pouvez leur poser la question, tout le monde sera prêt et tout le monde va désirer pouvoir influencer sa vie, influencer ses circonstances. Tout le monde souhaite pouvoir agir sur les choses. Hein? Bien sûr, il y a des gens qui subissent et qui subissent parfois difficilement, mais au fond de soi, chaque homme a ce désir de changer les choses. Chaque homme a ce désir de faire quelque chose pour que ça aille mieux, pour que ce monde soit un peu meilleur et pour que leur vie soit meilleure. Peut-être que les seuls qui n'ont pas ça en eux, ce sont les chrétiens, malheureusement. Hein, beaucoup de chrétiens, ou en tout cas de religieux, subissent les choses et disent « Oui, bon, notre espérance, c'est qu'un jour, on va aller au ciel. » Donc bon, sur cette terre, on essaie de s'en sortir autant aussi bien qu'on peut, tant bien que mal, et puis... Vivement le ciel, merci Seigneur, nous avons été sauvés, nous n'irons pas en enfer. Et d'ailleurs, là où on s'est trompé, c'est que souvent quand on prêche l'évangile, entre guillemets, ce que nous appelons l'évangile, qu'est-ce qu'on prêche? On dit aux gens, si tu veux pas aller en enfer, donne ta vie à Jésus. Et c'est pas une blague, hein. Et ça marche quelquefois, parce qu'on fait aux gens peur, les gens ont peur de l'enfer, les gens n'ont pas envie d'aller griller dans les flammes du diable. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur vie à Jésus. Ils viennent se cacher dans l'église et ils attendent que les choses se passent pour un jour aller au ciel. Mais ça, c'est pas l'objectif de Dieu. Ça, c'est pas le but de Dieu pour l'homme bien-aimé. C'est vrai, l'enfer existe, le ciel existe. On est d'accord. Mais le message de Jésus, c'est pas si vous voulez pas aller en enfer. Le message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, nous revenons à la position que Dieu nous a désignée, à savoir que nous redevenons en position d'autorité, en position d'influence, en position d'impact. Et ça, c'est ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants. C'est ce qu'il est venu restaurer et c'est ce que signifie le royaume de Dieu et c'est le message de Jésus. Et Jésus parlait aux gens en parabole et la plupart des gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils pensaient peut-être que c'était des petites histoires morales, c'était bien intéressant. Mais ses disciples comprenaient, ou en tout cas Jésus expliquait à ses disciples. Et à chaque fois, il leur disait « Le royaume de Dieu est semblable à... » Et il racontait une histoire pour expliquer ce qu'il voulait leur dire du royaume de Dieu. Et lorsque Jésus fait son sermon sur la montagne, comme on dit, ou ses béatitudes, il dit « Heureux, tel, car, tel. » Il dira « Heureux, heureux serez-vous. » Hein, il parle d'hériter la terre, il parle... que le royaume des cieux est à eux, etc. Il donne des principes. Et en fait, il annonce le bonheur, il annonce le fait d'être heureux, le fait de s'épanouir, le fait de prospérer, le fait de se développer. Et le développement personnel, c'est aussi quelque chose qui est très, très à la mode, très en vogue. Et pour cause, parce que chaque homme en soi a cette semence et ce désir de se développer, de s'accomplir, d'avoir une vie significative et d'influencer les choses. Et c'est exactement le message de Jésus. Vous savez, l'Église, je mets en général, prêche un certain message et on a l'impression que le monde n'en veut pas, le monde n'est pas intéressé. Mais bien sûr, le monde n'est pas intéressé par la religion. Le monde n'est pas intéressé par une théologie de plus. Ce dont le monde est intéressé, bien aimé, c'est par le royaume de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais les gens, quand on dit Dieu, ça n'intéresse pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller crier Dieu sur tous les toits. Quand vous commencez à vivre selon les principes du royaume de Dieu, quand vous commencez à avoir des attitudes qui se démarquent, quand vous commencez à apporter des solutions, quand vous commencez à manifester le caractère de Christ, plus vous devenez semblable à lui, les gens vont commencer à voir que vous avez quelque chose de différent. Et vous allez voir que vous aurez du succès, parce que Dieu promet le succès à ceux qui l'honorent, à ceux qui marchent selon ses principes, vous allez voir que vous irez bien et les gens vont commencer à se demander qu'est-ce que vous avez et à chercher à l'avoir. Et ce que vous avez, c'est le royaume de Dieu. Et les hommes ne sont pas hostiles au royaume de Dieu. Vous savez, les gens sont en recherche, les gens. Ils désirent connaître comment réussir, comment se sortir de ces cercles vicieux où on voit que les choses ne vont pas. Et bien souvent même, c'est de pire en pire. Mais le royaume de Dieu, c'est la réponse. Parce que dans ce royaume, bien sûr, nous sommes sous l'autorité de Christ, mais nous retrouvons l'autorité d'agir dans notre vie, dans nos circonstances, sur la terre, et d'amener les choses du ciel sur la terre. Jésus leur a dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que ton règne vienne. Mais comment le règne viendra-t-il? À travers nous. Et les choses du ciel doivent maintenant venir se manifester sur la terre. L'objectif de Dieu, c'est pas que nous restions comme ça à attendre d'un jour aller au ciel. La pensée de Dieu, le désir de Dieu, l'idée de Dieu, c'est que, au travers de son peuple, au travers de son royaume, eh bien, les réalités célestes se manifestent sur la terre. Et ça, c'est une toute autre perspective, bien aimé. Et dans l'épître aux Éphésiens, on a cette déclaration intéressante, Éphésiens 1, verset 3, où l'apôtre Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et plus loin, au verset 9, il est dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. » Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ici on voit que l'objectif, la pensée de Dieu, c'était que en Christ soient réunies les choses célestes et les choses de la terre. Autrement dit, par Christ, il voulait amener sur la terre les choses célestes. Et nous qui sommes nés de nouveau, qui croyons, nous sommes en Christ. Donc si nous sommes en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction et nous sommes aussi dans cette situation où les choses du ciel et les choses de la terre doivent être rassemblées. Autrement dit, nous devons amener les réalités de notre royaume, les réalités du ciel sur la terre. Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc là encore, on a une exhortation à regarder ce qui se passe au ciel, à s'attacher aux réalités d'en haut, à s'attacher aux réalités du royaume de Dieu. Et en fait, à ce que ces réalités deviennent prépondérantes sur les choses qui se passent sur la terre. Donc nous sommes appelés à amener le ciel sur la terre. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, Romains 4 nous donne un exemple de comment Dieu fonctionne. Et je vous rappelle que nous sommes appelés à être les imitateurs de Dieu. D'accord? Alors Romains 4, il nous est parlé de la foi d'Abraham. Et il est dit là, au verset 17, que Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et on voit cette réalité dans la création. Parce qu'à chaque fois, Dieu dit et la chose arrive. Et de la même façon, nous devrions prendre exemple et appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire que les réalités célestes, les réalités du royaume de Dieu, nous devrions les appeler à l'existence sur la terre. Waouh, quelle mission! Ça, c'est la mission de Dieu pour l'Église, bien-aimé. C'est la mission de Dieu pour ses ambassadeurs, pour ses enfants, vous et moi. Nous sommes appelés à manifester les réalités du ciel sur la terre. Nous ne devons pas seulement prêcher un message comme ça. Mais ce message est accompagné d'une démonstration de puissance, est accompagné de choses surnaturelles, de choses célestes. Vous savez, quand il y a des guérisons, quand il y a des délivrances, quand il y a la puissance de Dieu à l'œuvre, quand il a des révélations, ce sont des choses célestes qui sont amenées sur la terre. C'est surnaturel, d'accord? C'est des choses qui ne sont pas normales, entre guillemets, dans un schéma terrestre. Mais nous qui sommes ses disciples, eh bien, nous faisons comme Jésus, nous regardons ce qui se passe dans les lieux célestes, et nous voyons faire au Père, et qu'est-ce que nous faisons? Nous le manifestons sur la terre par nos paroles, nous déclarons les choses, nous les appelons à l'existence, et ensuite nous alignons nos comportements sur ce que nous disons. Et quand notre vie est alignée sur la pensée de Dieu, sur les principes du royaume, sur l'enseignement de Christ, eh bien, nous faisons l'œuvre de Dieu. Et quand les gens nous voient, eh bien, ils devraient voir Christ, ils devraient voir Dieu lui-même. Rappelez-vous, Jésus avait dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Donc, si nous sommes appelés à être à la mesure de la stature parfaite de Christ, à un moment donné, les gens qui nous voient devraient voir Dieu. Non pas que nous sommes Dieu, mais nous devons donner la même image, le même ton. Et de la même façon, lorsqu'on voit un enfant de Dieu, un citoyen du royaume, ou qu'on en voit un autre, on doit pouvoir dire « Mais lui, il a quelque chose, il est de Dieu ». Ça va se voir. Pourquoi ? Parce que vous manifestez les réalités du royaume. Vous manifestez les réalités célestes, vous manifestez une culture différente, vous manifestez des choses différentes et vous avez une puissance qui vous accompagne, qui vient rendre témoignage et qui est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et ça, c'est ce pourquoi nous avons été envoyés, bien-aimés. Et lorsque nous avons été envoyés avec une puissance. Mais je voudrais encore souligner quelque chose à ce sujet, au sujet de l'Église, dans l'évangile de Matthieu, où il va demander à ses disciples, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En fait, c'est une révélation qu'il a reçue. Et verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc là, Jésus annonce déjà à Pierre une puissance qu'il va donner à ses disciples en donnant cette puissance à l'Église devant laquelle les portes du séjour des morts ne doivent pas prévaloir, ce qui veut dire que l'Église a l'autorité et la puissance par excellence contre laquelle rien ne peut s'opposer. Vous savez, les portes du séjour des morts, c'est pas seulement la mort elle-même, mais c'est tout ce qui peut venir du séjour des morts. La maladie, la destruction, la pauvreté. Tout ce qui n'est pas pleinement la vie et la vie en abondance telle que Jésus est venu l'apporter selon Jean 10:10. Mais là il lui dira ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc là il dit que ce que vous faites sur la terre ça a une répercussion dans le ciel. C'est-à-dire que nous regardons à Dieu, nous regardons ce qu'il fait et nous l'appelons à l'existence sur la terre et ça va se réaliser, se manifester. Nous avons cette autorité que Dieu nous a donné pour manifester sa puissance, pour libérer sa puissance sur la terre et faire l'œuvre du royaume de Dieu. Et lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit qu'ils recevraient une puissance, il leur a dit qu'ils recevraient un consolateur qui demeurait avec eux. Et vous savez que lorsque Jésus annonce le consolateur, le Saint-Esprit, pour les conduire dans la vérité, pour les enseigner, pour les assister, en fait le mot qui est utilisé, le mot grec, c'est parakletos. Et parakletos, c'est celui qui est aux côtés de quelqu'un. C'est un assistant, c'est une aide. Et en fait, le Saint-Esprit n'est pas seulement donc quelqu'un qui va consoler de l'absence de Jésus, mais c'est quelqu'un qui nous est donné pour nous aider, pour nous conduire. Et parmi les fonctions du Saint-Esprit, c'est aussi de nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit, et c'est de nous donner la puissance d'accomplir l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Et bien sûr, on a ce passage tellement connu de Acte 1, verset 8, où il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, non seulement Jésus a envoyé ses disciples, mais il les a aussi équipés. Et quand on voit plus loin, l'apôtre Paul dira que sa prédication ne repose pas sur des discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et en fait, Jésus nous a envoyés continuer sur la terre l'œuvre qu'il a commencée, à savoir d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de manifester la puissance du royaume, de faire des disciples et de faire l'œuvre de Dieu, et ceci avec sa puissance à notre disposition. Donc nous sommes vraiment appelés à être des disciples accomplis, à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Le désir de Dieu, c'est pas seulement qu'il y ait beaucoup de chrétiens, c'est pas que le christianisme ou le protestantisme devienne la première religion sur terre. Non, ce que Dieu désire, c'est établir son royaume. Et c'est ce qui doit être aussi dans nos cœurs et notre désir et notre priorité. Je vous rappelle que nous sommes ses disciples et qu'un disciple, c'est quelqu'un qui se met sous l'enseignement de son maître, qui va aussi progressivement reproduire l'exemple de son maître. Et ensuite, lui-même va encore produire d'autres disciples qui ne sont pas ses disciples à lui, mais qui sont aussi les disciples du maître. Et ça, c'est vraiment ce à quoi Dieu nous a appelés. Et mon désir, c'est que chacun d'entre vous et chaque enfant de Dieu, en général, puisse maintenant avoir une prise de conscience et dire, mais c'est vrai, on n'est pas appelé seulement à être des croyants. On n'est pas appelé seulement à venir à l'église chaque semaine comme ça et puis à rentrer chez nous, puis à revenir la semaine d'après. On n'est pas appelé seulement à faire des petites choses par-ci, par-là, mais Jésus nous a appelés à être des disciples. Et être un disciple, ça va appeler notre consécration. Ça va nous demander tout notre être. Ça va impliquer toute notre personne. Il va falloir qu'on cherche à épouser les vérités de la parole de Dieu, les principes du royaume. Ça va nous demander de laisser de côté nos traditions, peut-être des habitudes qu'on a depuis des années et des années dans ce que nous faisons, pour regarder de nouveau à l'essentiel. Ça va demander de faire une transition, à un moment donné, de passer de notre système, des choses que nous avions sous les yeux, des habitudes, peut-être même des rituels que nous nous étions établis, et à commencer à chercher vraiment la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Vous savez ce que Dieu désire ? C'est que nous manifestions son royaume sur la terre. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. C'est pour ça que nous sommes sauvés, pour manifester le royaume de Dieu. Et nous sommes appelés à établir ce royaume. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés, Dieu suscite une génération. Et quand je parle de génération, je ne parle pas spécialement de tranche d'âge. Il y a des personnes jeunes, il y a des personnes plus âgées, mais Dieu cherche un peuple, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à quitter leur système, à quitter leur routine, à quitter les sentiers battus de la religion pour venir et oser redécouvrir complètement quelle était son idée, quelle était sa pensée, quel était son plan. Des hommes et des femmes qui vont se connecter au but de Dieu sur la terre. Des hommes et des femmes qui vont réaliser qu'il y a beaucoup plus que ce que nous appelons l'Église aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui vont réaliser que nous sommes sur terre pour faire un impact et que nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que cela change quelque chose dans notre propre vie, bien sûr, et dans la vie des gens qui sont autour de nous. Vous savez, nous sommes appelés à faire un impact, bien-aimé. Et c'est totalement erroné et c'est un excès absolu que de voir l'Église comme une entité totalement isolée du monde qui attend gentiment le retour de Jésus ou bien l'enlèvement ou bien la mort pour aller au ciel. Le désir de Dieu à travers son Église, à travers ses enfants, à travers ses disciples, c'est de venir et de transformer le monde avec la puissance de Dieu, avec la puissance du royaume de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est pas que les chrétiens se mettent de côté, se cachent, attendent que Jésus revienne les chercher. Ce qu'il désire, c'est que nous transformions ce monde. Ce qu'il désire, c'est que les choses du ciel se manifestent sur la terre à travers ses enfants, à travers ses disciples, à travers les ambassadeurs de Dieu qui vont amener le ciel sur la terre en suivant le modèle, l'exemple. Jésus n'est pas venu seulement nous sauver pour que nous l'attendions et que nous soyons là. Non, Jésus est venu nous sauver, mais il a désiré que nous soyons ses disciples et que nous fassions d'autres disciples. Et au travers de ces quelques messages, nous avons entrevu, observé ce que c'est qu'un disciple et ce que ça appelle. Je crois qu'il est temps que vraiment nous reprenions un engagement de qualité, que nous nous mettions en question devant le Seigneur, que nous disions, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton but pour ma vie? Quelle est la destinée pour ma vie, pour l'Église, pour ton peuple, pour le peuple de Dieu dans ce temps? Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? C'est vrai qu'on voit que nos efforts d'évangélisation ou de prière ne sont couronnés que de quelques résultats. On voit que certaines initiatives, bon, parfois il se passe quelque chose, mais Seigneur, selon ta parole, tu nous as appelés, et tu nous as établis pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Et à partir de là, de vraiment soumettre nos vies au Seigneur, chercher sa pensée, chercher sa face et nous laisser transformer, nous laisser réajuster pour vraiment entrer dans les plans de Dieu. Vous savez, les gens venaient à Jésus, les gens suivaient Jésus. Pourtant, Jésus n'avait pas de grande structure, Jésus n'avait pas d'institution, Jésus n'avait pas quoi que ce soit pour faire qu'il ait plus de succès. Tout ce que Jésus avait, bien sûr, c'était la puissance de Dieu. Et tout ce que Jésus avait, c'était un message qui était différent. Il apportait quelque chose que les religieux ne leur apportaient pas. Et même quand Jésus enseignait, les gens disaient, mais comment est-ce qu'il parle avec autorité? Les scribes et les pharisiens ne parlent pas comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus amenait une autre réalité. Jésus amenait la révélation de la parole de Dieu. Jésus amenait, annonçait, prêchait, démontrait, manifestait le royaume de Dieu. Et il est temps que notre monde retrouve le royaume de Dieu. Il est temps que des hommes et des femmes d'authentiques disciples de Jésus se lèvent et recommencent à annoncer le message. Le message, pas une partie, pas quelques bribes, pas quelques extraits intéressants, pas seulement des miettes, mais le message, celui du royaume de Dieu. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Naître de nouveau, d'accord. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, c'est quoi le royaume de Dieu? Comment on vit dans le royaume de Dieu? Comment on manifeste les œuvres de Dieu? Voilà, là il y a les vraies questions. Vous savez, il ne suffit pas que d'emmener les gens à naître de nouveau encore une fois. Jésus ne s'est pas contenté d'annoncer la nouvelle naissance. Ensuite, il a expliqué comment c'était le royaume, quels étaient les principes du royaume de Dieu. Il a amené les gens à grandir, à maturer, et avec le désir et l'objectif pour eux de devenir semblables à lui, et de faire les mêmes choses que lui, et de plus grandes, pour manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, et le royaume de Dieu sur la terre. Et ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous l'avons vu au travers de ces quatre messages. Il y a plusieurs passages des Écritures qui montrent que nous devons être semblables à lui, que c'est l'objectif de Dieu, que nous avions la même stature. C'est-à-dire que lorsque les gens nous voient, ils ne voient pas un religieux, ils ne voient pas je ne sais pas quoi, mais qu'ils trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Parce que Jésus avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Jésus avait quelque chose que les religieux n'avaient pas. C'est pour ça que les gens facilement suivaient Jésus. La Bible nous montre que des foules suivaient Jésus. À cause de ce qu'il annonçait, à cause de ses miracles, à cause de sa provision. Je vous rappelle qu'il a nourri 5000 hommes qui l'avaient suivi pour entendre son enseignement, sans compter les femmes et les enfants. Je vous rappelle qu'il amenait la guérison aux gens. Et ce, de façon quotidienne, régulière, c'était des manifestations du royaume, mais son message, c'était le royaume de Dieu. Et le monde désire aujourd'hui, le monde attend des hommes et des femmes qui apportent quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, qui apportent quelque chose que la religion n'apporte pas, qui amènent quelque chose que les philosophies n'apportent pas, qui amènent quelque chose que les mouvements de pensée, les organismes, les institutions, les systèmes n'apportent pas, qui amène quelque chose de différent, qui amène le ciel sur la terre. Un message céleste, une atmosphère céleste, des manifestations célestes, une autorité céleste, une puissance, des signes, des prodiges et des miracles qui viennent en fait rendre témoignage au message et à la manifestation du royaume de Dieu. Donc voilà le défi qui est devant nous, bien-aimés, dans le temps dans lequel nous sommes. À ne pas nous contenter seulement d'être assis dans une église en disant « ça y est, je suis sauvé », mais à approfondir, à nous laisser enseigner par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans la vérité, pour nous instruire et à grandir les uns avec les autres pour manifester le royaume de Dieu, pour être semblable à Jésus, pour avoir un impact dans ce monde, un impact non seulement dans les églises, non seulement sur le monde spirituel, entre guillemets, mais un impact partout où nous sommes. Parce que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu né de nouveau est appelé à être un disciple et à apporter maintenant les qualités du royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, là où il se trouve, et ce, dans tous les domaines de la vie sociale, dans tous les endroits où il se trouve, en tout lieu. Et quand les gens vont voir des hommes et des femmes qui manifestent un style de vie différent, qui manifestent des standards plus élevés, et qui en fait sont à l'image de Christ, eh bien les gens vont chercher à avoir ce que vous avez. Et à partir de là, vous allez pouvoir les amener à Jésus-Christ. Hein, et plus que de prêcher seulement Jésus, Jésus, notre vie doit être un témoignage, doit être le reflet du royaume de Dieu. Que les gens disent, mais toi, d'où tu sors? Parce qu'en fait, nous avons la nature divine, comme dit la parole, nous a rendu participants à sa nature divine, donc nous ne sommes pas des hommes ordinaires, et je ne vais pas dire qu'on est des extraterrestres, d'accord, mais nous devons refléter quelque chose de différent. Et c'est ce qui va interpeller les gens, et à ce moment-là, ils vont dire, mais toi, ce que tu as, j'en ai besoin, je le veux, où est-ce que tu prends ça? Comment tu fais pour réussir? Comment tu fais pour être bien? Comment tu fais? Et bien là, on va pouvoir dire aux gens, eh bien, j'applique les principes du royaume de Dieu, je vis dans l'honnêteté, je suis intègre, et je marche avec Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Dieu et ça m'a fait entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est moi qui suis au contrôle. C'est moi qui influence. C'est moi qui donne le ton. Et bien sûr, pas pour moi-même ni par moi-même, mais en faisant ce que je vois faire au Père, en suivant l'exemple de mon Seigneur. Et je vous rappelle que le disciple accompli est comme son maître et que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et la Bible déclare aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc c'est à nous maintenant de manifester la puissance de Dieu, d'oser relever le défi d'amener le royaume de Dieu là où nous sommes et de venir impacter ce monde avec le message qu'ils attendaient, dont ils ont tant besoin, qui est celui du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Il nous a envoyés pour ça. Alors je sais que ce message va interpeller plusieurs personnes. Et d'ailleurs j'ai déjà eu des échos sur les premières parties, mais c'est un message qui s'adresse à chaque enfant de Dieu, un enfant de Dieu véritable, qui désire vraiment voir l'accomplissement des buts de Dieu sur la terre, qui désire vraiment entrer dans la réalisation des plans de Dieu, dans la manifestation glorieuse des objectifs et du royaume de Dieu. Eh bien, soyez un disciple accompli, qui va être comme le Maître, qui va manifester les mêmes choses que le Maître. Et je peux vous dire que vous serez le premier bénéficiaire. Vous serez béni et vous serez une bénédiction. Vous allez impacter ce monde. Vous allez vous accomplir vous-même et vous allez être une source de développement, de bénédiction et d'accomplissement pour un grand nombre de personnes parce que vous ne vivez pas seulement pour des choses un petit peu étranges. Vous ne vivez pas seulement pour une religion. Vous ne vivez pas seulement pour un discours. Mais vous vivez des choses réelles qui changent votre vie et qui ont le pouvoir et la capacité de changer la vie autour de vous et de changer ce monde. Alors, aujourd'hui, je vous encourage vraiment à prendre à cœur cet appel, à répondre à l'appel de Dieu pour être un disciple et un disciple accompli. Il faut dire qu'il n'y a rien de meilleur. Et en fait, il n'y a aucun autre moyen de vous réaliser, de vivre un développement personnel complet et un accomplissement de soi autrement qu'en entrant dans l'accomplissement des plans de Dieu, de ses buts pour notre vie et pour ce monde. Et là, vous verrez sa gloire, vous serez bénis, vous serez heureux à tous égards et Dieu sera glorifié. Et vous serez heureux, vous serez bénis, parce que nous sommes appelés à être semblables à lui. Nous sommes appelés à être des disciples, pas seulement des croyants. Pour cela, il faut payer le prix, il faut s'engager, il faut se consacrer. Mais nous avons un modèle à suivre. Le modèle, c'est Jésus, qui lui-même faisait ce qu'il voyait faire au Père. Et puis, il nous a envoyés, il nous a équipés pour accomplir son œuvre. Alors aujourd'hui, est-ce que quelqu'un répondra à cet appel? Est-ce que quelqu'un s'engagera pour être vraiment disciple du Seigneur, un disciple accompli qui révèle Jésus-Christ à ce monde, qui manifeste la gloire de Dieu et qui apporte au monde la révélation des fils de Dieu tant attendu. L'appel est lancé à chacun de vous d'y répondre.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.